Laudetur Jesus Christus.
Aucune parole humaine n'est en mesure de protéger les vies des bombardements quotidiens. Lettre du pape François au nonce apostolique à Kiev parue hier pour les 1000 jours de la guerre en Ukraine. Nous y revenons dans le détail. L'ONU dénonce le pillage systématique de l'aide humanitaire à Gaza. Hier soir, les Nations Unies se sont inquiétées du laisser-faire israélien sur ces attaques de camions. Le marasme sécuritaire se poursuit en Haïti. Les gangs de la capitale ont lancé une nouvelle offensive provoquant le chaos. L'ONG Médecins Sans Frontières suspend ses opérations à Port-au-Prince. La nuit des témoins cette semaine pour honorer les chrétiens tués en raison de leur foi. Focus ce matin sur l'église en Corée du Nord avec un missionnaire de la péninsule. Ce sera dans notre dossier.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Plus qu'une lettre au nonce apostolique à Kiev, c'est une invocation à Dieu que le pape François a adressée hier au 1000e jour de guerre en Ukraine, afin qu'il convertisse les cœurs et les rende capables de dialoguer et de se réconcilier dans la concorde. Dans ce texte, le Saint-Père s'unit au cri vers le ciel des victimes du conflit. Xavier Sartre.
C'est par des mots simples que le pape écrit à Mgr Kulkobas. Je sais bien qu'aucune parole humaine est en mesure de protéger les vies des Ukrainiens des bombardements quotidiens, ni de consoler ceux qui pleurent les morts, ni de soigner les blessés, ni de rapatrier les enfants, ni de libérer les prisonniers, ni d'adoucir les effets cruels de l'hiver, ni de ramener la justice et la paix. Et des mots pleins de solidarité, certes, reconnaît-il comme il les prononce depuis plus de 2 ans et demi, mais François veut aller plus loin, en invoquant Dieu pour qu'il convertisse les cœurs et les rendre capables de s'engager sur la voie du dialogue, de la réconciliation et de la concorde. Une invocation plus que nécessaire dans la mesure où le mot paix, que le pape voudrait entendre résonner dans les familles, les maisons et les places de sa chère Ukraine, est oublié de tous. Le Saint-Père évoque aussi dans cette lettre la minute de silence national qui a lieu tous les matins à 9h, lors de laquelle les Ukrainiens se souviennent avec douleur de leurs nombreuses victimes, enfants comme adultes, civils comme militaires, sans oublier les prisonniers, qui se trouvent souvent dans de déplorables conditions, comme il l'écrit. Il s'unit ainsi à tous les Ukrainiens pour que le cri qui se lève vers le ciel, duquel vient l'aide, soit plus fort.
Xavier Sartre, l'Ukraine d'avant 2022 est un pays que nous ne connaissons plus, témoigne pour sa part le chef de l'église gréco-catholique ukrainienne. Monseigneur Shevchuk raconte dans un entretien aux médias du Vatican comment l'évangile est la seule parole de vie dans un océan de douleur depuis 1001 jours. Nous perdrons si les États-Unis arrêtent d'aider l'Ukraine, avertit lui Volodymyr Zelensky, craignant un changement de ton avec la prochaine administration. Il accordait pour cela une interview à la chaîne américaine Fox News, à qui aux sympathisants du futur président Trump. Avant le 20 janvier et la prochaine investiture, les États-Unis vont fournir pour l'heure des mines antipersonnelles à l'Ukraine. Nouveau feu vert après celui dimanche soir donné pour les missiles à longue portée qui ont commencé à être utilisés par la défense ukrainienne mardi matin contre des installations militaires russes. La Russie promet, je cite, une réponse appropriée. Vote incertain ce mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU. Il doit se prononcer sur un projet de résolution réclamant un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et permanent à Gaza, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Une formulation qui a provoqué par avance la colère d'Israël. Parallèlement, Washington annonce des discussions avec l'État hébreu sur les dommages causés aux civils de Gaza. De hauts responsables américains et israéliens se réuniront début décembre dans le cadre d'un nouveau canal de discussion, informe le département d'État. Sur le terrain, l'OMS fait part de sa vie inquiétude pour les hôpitaux encore en état de partiellement fonctionner dans le nord de la bande de Gaza. Ces 7 derniers jours, 4 missions de l'Organisation mondiale de la santé ont été par exemple refusées. Autre problème humanitaire, le pillage armé des camions d'aide. Un système d'attaque de plus en plus organisé et efficace, y dénonce hier l'ONU. Le point sur le terrain à Jérusalem avec Valérie Ferron.
Les habitants de la région nord de la bande de Gaza restent bombardés, assiégés et affamés depuis 1 mois et demi par l'armée israélienne qui reste déterminée à vider la zone de toute sa population. Plus de 100 000 enfants et adultes, selon les Nations Unies, ont déjà été forcés de partir vers la ville de Gaza et la région sud, accentuant la pression dans ces zones où s'entasse la majorité de la population dans des conditions extrêmes. L'entrée et la distribution de l'aide humanitaire restent très sérieusement entravées par la puissance occupante israélienne qui laisse par ailleurs des gangs piller les camions dès leur entrée. Le Hamas a entrepris de lutter contre le phénomène via ses services de sécurité. Au moins 25 membres de ces bandes ont été tués ces trois derniers jours. Parallèlement, le mouvement, de même que le djihad islamique, continue d'attaquer soldats, chars, bulldozers et drones militaires israéliens dans toute la région nord ainsi que dans la zone stratégique du centre qui coupe la bande de Gaza en deux et celle du sud à la frontière avec l'Égypte où l'armée israélienne est présente depuis mai dernier. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Et puis à Jénine, en Cisjordanie, 5 morts jusqu'ici dans les frappes. L'armée a ravagé ce matin différentes infrastructures et commerces. Début ce mercredi de la visite officielle du président chinois au Brésil dans la foulée du G20. Le gouvernement Lula se montre toutefois prudent sur le programme chinois des nouvelles routes de la soie en Amérique latine, qui inclut déjà le Pérou. Autre signe de la stratégie de Pékin dans la région, le Suriname et la Chine viennent de signer un accord de restructuration de la dette de 475 millions de dollars. Le Suriname est un petit pays pauvre du nord de l'Amérique du Sud, disposant d'importantes réserves pétrolières. Dans la foulée du G20 achevé hier, le président français arrive lui au Chili, dernière étape de sa tournée en Amérique latine. Le pays n'est pas membre du Mercosur qui suscite la colère agricole dans l'Hexagone et d'autres pays européens. Emmanuel Macron entend mettre en avant l'accord commercial existant entre l'UE et Santiago comme modèle de traité respectant les normes et les préoccupations. Le président français s'entretiendra aussi avec Mgr Fernando Chomali, archevêque de Santiago qui sera créé cardinal à Rome le 7 décembre. Une rencontre selon l'Élysée pour ne pas oublier le rôle de l'Église chilienne dans la protection des opposants à l'époque de la dictature militaire d'Augusto Pinochet. En Espagne, le gouvernement va faciliter la régularisation de dizaines de milliers d'immigrés illégaux supplémentaires par an au cours des trois prochaines années. La majorité de gauche veut faire face à la chute de la natalité et au manque de main-d'œuvre de l'Espagne. À Barcelone, Luis Marsens.
L'Espagne est à contre-courant en Europe en matière migratoire. À la différence de plusieurs de ses collègues, Pedro Sanchez considère qu'une immigration régulée est nécessaire pour l'Espagne. La natalité du pays est en chute libre et pour soutenir la croissance, l'Espagne a besoin de main-d'œuvre. Alors le gouvernement va faciliter les régularisations. La réforme prévoit notamment une réduction des délais et des formalités pour l'obtention des titres de séjour, le renforcement des droits des travailleurs migrants, l'extension de 3 mois à 1 an de la durée du visa de recherche d'emploi et la création de nouveaux statuts ouvrant la voie à une régularisation. Selon le gouvernement, près de 3 millions d'étrangers cotisent déjà chaque mois à la sécurité sociale. C'est près de 14% du total des affiliés. L'objectif est de renforcer et d'élargir les voies d'accès à la régularisation pour les migrants qui se trouvent en Espagne, afin qu'ils puissent mener une vie pleine en tant que citoyens, avec des droits et des devoirs, a expliqué la ministre de l'Inclusion et des Migrations. Ce nouveau règlement devrait entrer en vigueur d'ici 6 mois. Barcelone, Luis Marsens pour Radio Vatican.
Le chaos sécuritaire se poursuit sur l'île d'Haïti. 28 membres de gangs ont été tués par la police et des habitants de la capitale hier. Les criminels avaient lancé une offensive dans Port-au-Prince. Cet épisode de forte tension intervient après le départ forcé de Gary Conny, premier ministre par intérim, début novembre. Il était soutenu par une coalition de gangs, aujourd'hui bien décidé à prendre le pouvoir, Jean-Benoît Harel.
Oui Delphine, l'arrivée comme nouveau premier ministre le 11 novembre dernier d'Alix Didier, fils aimé, n'a pas plu à la coalition des gangs qui tourmente la population haïtienne depuis des années. Bien au contraire, cette coalition, cyniquement baptisée Vivre Ensemble, vient de lancer des attaques contre plusieurs quartiers de la capitale. Leur objectif ? Renverser le conseil présidentiel de transition au pouvoir depuis le printemps 2024. La violence secoue donc à nouveau Port-au-Prince. Les cadavres d'une trentaine de membres des gangs ont été retrouvés hier après une attaque dans laquelle une dizaine d'assaillants a été tués par la police lors d'un contrôle. Les autres ont été poursuivis, tués et brûlés par les habitants excédés, constitués en groupe d'autodéfense. Les ONG subissent également cette hausse des tensions. Médecins sans frontières vient d'annoncer quitter le pays. Deux de ses patients ont été tués récemment dans une attaque d'une des ambulances de l'organisation. Plusieurs de ses membres ont aussi été menacés de viol et de mort par la police nationale. Malgré les appels au progrès urgent dans la transition politique par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, Haïti semble de plus en plus isolé. Son aéroport est fermé depuis des tirs d'armes à feu contre des avions de ligne la semaine dernière.
Merci Jean-Benoît Harel. Hausse du nombre de victimes de mines antipersonnelles dans le monde, la Birmanie arrive en tête des pays les plus meurtriers. Selon le rapport annuel de l'Observatoire des mines publié ce mercredi, mines et restes explosifs de guerre ont tué ou blessé près de 6000 personnes l'an dernier dans le monde. 1000 d'entre elles se trouvent en Birmanie, puis en Syrie. portraits que l'on porte en procession jusqu'à l'autel, des noms que l'on prononce à haute voix. Depuis 15 ans, chaque année en novembre, la Fondation Aide à l'Église en détresse fait mémoire des chrétiens tués en raison de leur foi. En cette semaine dite de la nuit des témoins, nous vous proposons ce matin de vous rendre dans un des pays les plus fermés et militarisés au monde pour voir comment y vivent les chrétiens. Massacrés dès la partition de la péninsule après la fin de la Seconde Guerre, les 98 000 protestants et catholiques qui se trouveraient encore en Corée du Nord sont contraints à la clandestinité. La dynastie des Kim, un régime de type stalinien, n'autorise en effet qu'une idéologie, le juché, une doctrine marxiste fondée sur l'autosuffisance et le culte du leader. Il existe pourtant un temple et une église à Pyongyang, construits quand le pays était en proie à la famine et promettait plus de liberté contre des aides humanitaires. Une vitrine, selon le père Philippe Blot, des missions étrangères de Paris. En Corée du Sud, depuis 34 ans, il s'est rendu au Nord par deux fois et s'est vu refuser de célébrer la messe.
Moi, si j'avais demandé de pouvoir dire la messe dans ce que vous appelez la cathédrale de Pyongyang, l'église catholique, ils ont toujours refusé. J'ai assisté à l'ADAP, l'Assemblée dominicale sans prêtre, parmi les gens qui étaient là, donc tous des Nord-Coréens qui étaient habillés d'ailleurs en tenue traditionnelle, qui chantent très bien, mais ce sont des figurants. Ils sont payés ou ils sont obligés d'assister, ils ont appris par cœur les chants. C'est du factice, c'est une vitrine.
Vous disiez qu'ils ne veulent pas entendre des prêtres prêcher. Ça veut dire quoi? Ils perçoivent comment le christianisme?
Pour eux, d'abord, c'est une religion étrangère. Et puis en même temps, ils voient bien que, par exemple, en Corée du Sud, lorsqu'il y avait des présidents qui étaient militaires, le cardinal Kim Soo-han, qui va seulement bientôt être béatifié, prenait la défense des pauvres, des ouvriers, etc. Et donc, ça leur fait peur, ça. Parce qu'avec toutes les injustices, les persécutions, et puis ils s'occupent ni des malades, ni des pauvres, ils les liquident comme ils le sentent. Donc ils savent que le christianisme, avant tout, Jésus prône la liberté. Puis c'est aussi un contre-pouvoir pour eux. Parce qu'ils savent très bien que pendant la persécution, eh bien, ils peuvent encaisser beaucoup de choses, mais jamais ils renieront, les vrais chrétiens renieront leur foi. Et ça, pour Kim Jong-un, le dictateur, pour lui, il est au-dessus de Dieu. Donc tu choisis Dieu ou moi. Et puis, s'ils choisissent Dieu, ben, ils sont envoyés dans les camps ou alors ils se font tuer sur place.
Ça fait plus de 70 ans maintenant qu'on ne peut adorer que les Kim en Corée du Nord, dans un contexte de persécution en plus durable. Comment est-ce qu'on sait qu'il existe encore des chrétiens sur place?
Il y a surtout des protestants. Vous savez qu'une partie des gens près de la frontière, ils ont aussi une partie de leur famille qui est installée en Chine. Donc, deux ou trois fois par mois, les gens sont autorisés à aller voir leur famille qui était en Chine de trois jours, puis ils revenaient, bien sûr. Mais entre-temps, certains ont connu Dieu, ils ont rencontré des pasteurs, justement, près de la frontière. Certains ont été baptisés et certains ont été poussés et ont voulu faire partager leur foi quand ils revenaient dans leur pays, etc. Mais beaucoup ont été arrêtés. C'est interdit d'avoir des Bibles là-bas. Alors maintenant, ce n'est plus des Bibles, c'est trop dangereux. Ce sont des clés USB. Il y a beaucoup de clés USB qui circulent en Corée du Nord, en cachette. Avec l'USB, il y a la Bible, il y a même des enseignements, des catéchismes, etc., pour inciter les gens à prier. Et si vous faites piquer avec ça, il ne faut pas se faire prendre.
Qu'est-ce que ça veut dire, vivre dans la clandestinité en Corée du Nord?
C'est d'abord parler tout bas. La maman et le père enseignent à leur petit enfant, dès 2-3 ans, de ne pas parler fort dans leur maison. Et puis ensuite, quand ils vont à l'extérieur, que ce soit à l'école ou faire des travaux dans les champs ou se balader un peu dans la rue et s'amuser avec leurs copains, surtout ne jamais parler de ce qui se passe dans la maison. C'est un régime où c'est ce qu'on appelle la délation. Les gens se dénoncent les uns les autres. Quelqu'un qui a une parole un peu dure contre tel ou tel haut fonctionnaire ou alors qui prie, on vous arrête sur le champ et puis vous êtes emmené dans les camps ou vous êtes carrément des fois condamné à mort sur place pour donner un exemple. Avant, vous savez, les gens qui ont tué et condamné à mort, ils étaient tués dans les sous-sols. Et maintenant, ils font ça carrément à l'extérieur pour montrer que il faut surtout pas aller au-dessus des lois. Donc la persécution, vivre en cachette, c'est tous les jours, toute sa vie, sous peine d'être pris à tout moment. Et donc c'est la loi du silence.
Quel témoignage livre aujourd'hui cette église qui est emmurée en quelque sorte, contrainte donc au silence?
Le seul témoignage des chrétiens dans les catacombes, bien sûr sans clergé, sans rien du tout. Il y a certainement des chefs de prière, enfin de communauté, mais il y en a beaucoup qui se font prendre. C'est-à-dire qu'ils ont un courage extraordinaire. Beaucoup ne renoncent pas à prier quand même, parce que c'est ce qui les fait vivre. Ils vivent dans une telle pauvreté, mais il y a une chape de plomb qui est tellement importante que leur façon de se libérer, entre guillemets, c'est de prier le Seigneur. C'est un témoignage extraordinaire. Et nous, pour les aider, on a simplement nos prières.
Interrogé par Marie Duhamel, le père Philippe Blot des Missions étrangères de Paris en Corée du Sud depuis plus de 30 ans était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre écoute. Nouvelle édition à 13h. Excellente journée.